On peut se reconcentrer sur la question.
Alors, le roi lion,
au lieu de s'occuper de la vie de Mons Gag. Hein.
Mais qui voulait un truc sans montage?
Faites chier, putain. Je vais encore passer mon samedi soir à monter pendant que les gens vont faire la fête et picoler en terrasse. Hein.
Et voir le roi lion.
Putain, j'ai envie de b***, moi.
C'est une très bonne intro.
Je la mettrai pas.
SOS, il a envie de b***.
Le numéro de Romain sera en description.
Oui, mais ils ne savent pas à quoi je ressemble.
Ah, c'est la surprise.
Ah oui,
hein.
Mais ça, c'est la surprise.
Bah, ça se rapproche du sosie de Brad Pitt et Johnny Depp, un peu entre les deux.
Un mix des deux.
Un mix des deux. Ouais.
Oui, avec un peu de Johnny To dedans. N'oublions pas que t'es asiatique. Oui. Quoi.
En fait, t'as un petit côté Jet Li, mais d'aujourd'hui, quoi.
Un petit côté Jet 27 aussi.
In a world. No, in a world, Jack. What do you mean, no, in a world?
It's not that kind of movie.
Oh? Okay.
Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là.
Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie.
Removing the head or destroying the brain.
Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde.
On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta Béa, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, même pour des films que l'on a déjà vus il y a 25 ans. Oui, car aujourd'hui nous allons décortiquer la Béa Zébabaya du Roi Lion, remake live Disney du classique de 1994 des mêmes studios Disney, ce dessin animé monumental qui a marqué tant de générations et surtout la nôtre. Du coup, c'est avec beaucoup d'attention et de bienveillance que nous allons, par cette BA, tenter de répondre à la question « Comment cette nouvelle recette du « je te refais la même » avec des acteurs et du CGI fonctionne-t-elle aussi bien aujourd'hui ?» Et pour cela, laissez-moi vous présenter ma team, mes beaux lions à la belle crinière soyeuse avec qui on va embarquer dans, comme dirait Yannick Noah, l'ambiance de la brousse. Avec moi autour de la table, ces animaux majestueux, et je propose d'ouvrir le concours du plus beau rugissement, avec notamment la belle lionne Johanna.
Graou, graou.
Ok, il n'y a pas de recherche.
Si, c'est une forme de recherche.
Également ce lion paria qui a dû fuir sa famille pour s'enfuir à Paris, Clément. Waouh.
Les poils. Ouais, franchement, graou, graou, c'était mieux.
C'est entre le film d'horreur et la savane.
Le lion, il a fumé trop de clopes, hein, je crois.
Et Kevin aussi, notre beau lion majestueux.
C'est le lion roux.
On dirait un Pokémon.
C'est plus un lion majestueux, c'est un chaton qui fait pitié.
J'ai un chat dans la gorge.
Et toi, Romain, c'est quoi ton rugissement?
Romain a travaillé pour MGM pendant 2000 ans.
J'ai travaillé pour MGM, mais j'ai pas travaillé cette intro. Bon, pour le sommaire d'aujourd'hui, vous l'avez déjà compris, la BA de la semaine, c'est le Royaume version 2019, avec des animaux plus vrais que nature. À la suite de quoi, on essaiera de déterminer si le projet actuel de Disney, qui est de remaker ces classiques animés hein, qui ont bercé notre enfance, est une bonne ou mauvaise idée, et surtout pour le Roi Lion, parce que je pense que pour certains autour de la table, c'est une de nos premières expériences de cinéma, hein, si je me trompe pas.
Absolument.
Et enfin, en deuxième partie d'émission, place à nos avis sur le dernier film de Luc Besson, Anna, dont nous avions déjà dit plein de bonnes choses en se faisant sa BA dans l'épisode 11.
On n'a pas été déçus.
Ah oui. Bon, allez, assez parlé. On va partir sans plus tarder pour la BA de la semaine. Et on rappelle, pour ceux qui débarquent ou qui auraient toujours pas capté le quoi du caisse, que la BA dont nous allons parler est glissée en description de cet épisode. N'hésitez pas à la voir avant ou pendant. Bon, direction la savane pour un safari BA, la team.
Allez, Kuna Matata.
Allez, la BA, c'est parti.
La vie
est injuste. N'est-ce pas, mon jeune ami ? Tandis que certains naissent dans l'abondance, d'autres passent leur vie dans l'obscurité. À quémander des miettes. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. Quand chacun se demande ce qu'il peut gagner, un vrai roi se demande ce qu'il peut offrir.
Sauve-toi, Simba. Et ne reviens jamais!
Il te faut prendre ta place. Dans le cycle de la vie.
Grand moment de solitude autour de la table.
Oh là là, le mec il s'enjaillait tout seul.
On a senti la confiance qui a
disparu. La BO complète.
Alors avant de commencer cette BA et de rentrer directement dans l'art du cochon, vous direz même du facochère. J'aime rire. Nous allons faire appel à un animal des plus technologiques, des plus pensés. Je l'ai nommé El Calculator, qui nous a compté les plans de cette BA et qui nous en fera une moyenne afin de déterminer s'il est dans la norme ou pas de ceci ou de cela.
C'est moi. Bonjour les amis.
Bonjour
El Calculator. Dans Le Roi Lion, il y a 52 plans en 1 minute 51, soit 0,46 plans par seconde. De loin, le total le plus faible depuis le début de l'émission.
Ah oui, petite BA.
C'est une BA qui pose son ambiance.
T'as l'air d'aller mieux, hein, Calculator, depuis la dernière fois. On rappelle que t'as bugué à la suite de la BA de Luc Besson.
Oui, comme je n'ai pas vu le film, ça va mieux.
D'accord. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de cette BA du Roi Lion ?
Je l'aime bien, car un membre de ma famille a travaillé sur le film.
Ah oui, qui ça ?
El Morphingator. Il a fait les morphings de Beyoncé.
Ah, putain, il a dû se plaire.
Elle est bonne.
Ah, oh, El Calculator.
Débranche.
Oulala, il devient de plus en plus humain.
Il m'inquiète beaucoup.
Bon, alors avant de commencer, les amis, petite précision pour cette BA. On va rapidement oublier le côté linéaire et l'idée de se faire des films à partir de la bande-annonce, car on le connaît déjà, le film. Hein.
Ah oui, c'est Le Roi Lion.
Bah oui, on l'a déjà vu et je pense pas qu'à part un gros pétage de plomb de Disney, qu'il y ait de vraies différences entre le plot de 1994 et le plot de 2019.
Bah, c'est pas ce que la BA laisse entendre, en tout cas.
Oui, la BA, c'est du plan pour plan de tout ce qu'on a déjà vu dans le premier film.
C'est un peu ça. Alors, ce que je vous propose, la team, hein, les auditeurs, c'est de se lancer dans un comparatif des versions de 1994 et de la version 2019, et ce, en explorant quatre aspects majeurs des deux films. On parlera du design des personnages, des décors, de la musique et du casting. Ça vous va ?
Très bien.
Parfait.
On va devenir les El Comparator, alors.
Bonjour, je suis El Comparator. C'est différent. Regardez les deux images, je n'ai rien à voir.
Bon, on se lance sur le design des personnages.
Alors, le design.
Parce que la BA est introduite tout de suite en présentant ces deux petits lionceaux qui sont... on va pas jouer au con pour celles-là, qui sont dans le cimetière des éléphants.
Oui. Hein,
Donc là, déjà, on est sur quelque chose qu'on a déjà vu, mais en mode CGI.
Ouais.
Mais on a une voix off, une grosse voix off qui dit « Ouais, moi aussi j'ai envie de croquer, ça se fait happe. » En gros, pour paraphraser.
C'est qui, c'est Rafiki qui parle ?
Non, c'est Scar. C'est Scar qu'on voit en premier.
Ah, c'est franchement Scar, le narrateur.
Et ouais, c'est Scar à ce moment-là qui fait un peu la victime. Faut qu'il se calme.
C'est une victime. On dirait du PNL. C'est le prince, toute sa vie, ça sera le prince. C'est comme le prince Harry, tu vois, il est dans la merde.
Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, du design de Scar ? Parce que moi, personnellement, j'ai pas compris.
Moi, je trouve qu'il a une tête d'alien, mec. C'est très perturbant, en fait.
En fait, ouais, ils ont essayé de faire un lion tout maigre avec une cicatrice, vu qu'il s'appelle Scar. Mais je pense qu'il fallait juste assumer le truc et lui mettre une crinière noire, quoi. Parce que là, il fait pas très peur en fait. Il fait plus vieux lion qui est en train de finir sa vie que vraiment méchant de film, quoi.
Bah, il fait victime, quoi, c'est ce qu'on dit.
Ça fait papillon un peu.
Ouais, parce que clairement, dans le dessin animé de 94, c'était le plus bronzé de tous. Déjà.
Oui.
Ouais, du coup, c'est pour ça que ce film a des valeurs un petit peu. Voilà.
Quoi. Oui. Tu sentais que t'avais la famille royale qui passait leur temps à l'ombre des baobabs pendant que lui, il était en train de
ouais, ben ça, c'est réussi. C'est qu'il a l'air d'être affamé un peu. C'est le côté, ouais, les hyènes et tout, quoi. Le charognard, en fait. Le lion charognard, quoi. Faudra avoir un mouvement.
Ouais, mais pas du tout déjà emballé, rien que par ce petit moment-là, par l'expression faciale des personnages et tout. Le côté CGI. Ok, on rend ça ultra réaliste et tout, mais j'ai l'impression que ça enlève des expressions, et notamment à Scar qui avait quand même une espèce de
rire un peu.
Ouais, et puis de flegme, ouais. Comme ça, qui dominait par ses plans machiavéliques Simba. Là, pour le coup, comme tu dis, Clément, on dirait un vieux chat en fin de vie, quoi.
Bah ouais.
Y a un problème, je pense, au niveau aussi des regards, en fait, parce que en fait les personnages n'ont pas d'expression, enfin de ce que montre la BA, quoi, donc ça va être difficile de s'identifier à eux, quoi.
Mais je trouve ça justement assez contradictoire, parce que du coup ils passent sur une technologie comme ça avec des comédiens, on va dire, et paradoxalement on voit pas trop les émotions, c'est-à-dire que les visages sont très figés, et j'ai l'impression que ça passe vachement, ils essaient justement de faire vachement passer par le regard, au moins qu'il y ait quelque chose dans le regard, soit de triste, soit de gay, mais c'est très bizarre, quoi. Je trouve que c'est un paradoxe qui est intriguant.
Et effectivement, ça me permet de rebondir sur ce que tu dis, Johanna, en parlant de regard, parce qu'on a Simba aussi, hein, forcément, qui est montré dans la bande-annonce, qu'on n'entend pas parler, bizarrement, mais qui passe là, et qu'on voit fuir les hyènes et tout, pas les hyènes, les gnous, et tout, machin, nana, etc. Mais je ne retrouve rien dans son regard. Contrairement au Simba de 94, où on se souvient de cette scène où il est terrifié, il apprend la mort de son père. Oula, spoil alert, pardon.
Je pense que c'est le spoil que tout le monde connaît dans l'univers.
Mais là, on a ce petit lionceau, là, certes très mignon, mais qui fait documentaire. Quoi.
Il n'a pas d'âme, quoi. Il est vide.
On dirait un docu, ouais, c'est ça.
Donc si on part sur ça pour le film...
Moi, surtout, j'appréhende le moment où ils vont chanter. Parce que qu'est-ce que ça va donner, quoi, tout d'un coup, des bêtes réalistes qui se mettent à chanter ?
Ou alors ils vont pas chanter, les chansons seront entre guillemets en extra-diégétique, quoi, tu vois.
Ah, tu crois ?
Ouais.
Ouh, ce serait quand
même
bizarre.
Alors ça, ce serait, ouais. Ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, ça m'interroge, ce choix, quoi. Et comme tu disais, Johanna, c'est étrange de perdre en expressivité alors que t'as des comédiens, quoi, surtout des plutôt bons comédiens à disposition. Et je pense qu'ils ont eu peur de l'effet... La vallée de l'étrange, là, c'est-à-dire d'avoir un visage humain sur un lion. Et du coup, ils ont fait le choix radical d'avoir un visage de lion. Mais le problème, c'est qu'est-ce que ça exprime, quoi.
Bah pourtant, ils ont réussi avec Janet Jackson dans La planète des singes.
Mais il n'y avait pas trop de maquillage, on va dire.
J'ai pas osé
non,
la
on
faire.
On fait un peu le tour des personnages, là, et tout. Et on a notamment Zazu qui nous est présenté aussi.
Ouais. Oui, c'est vrai. Mais moi, au début, j'ai même pas compris que c'était lui.
Je vois la vraie tête qu'a cet oiseau normalement dans la vraie vie, du coup, c'est assez étrange.
Ouais, aussi.
Qu'est-ce que quoi ?
C'est un mini cacatoès.
Ouais, un mini cocaïne toès, parce que j'ai l'impression qu'il est arrivé en sniffant toute la coke sur toute la falaise, le gars.
Il y a Pumba aussi.
Ah, mais Pumba, lui, c'est le crack, hein, plus parfait.
Alors, Pumba, ouais, on en parle.
Mais déjà, ils étaient foncedés à la base, Timon et Pumba.
Ouais, mais là, ils sont vraiment là. Il la Pumba, tout... il saute partout et tout.
Il est
fait
tout
quoi,
maigre, je sais pas, c'est étrange ce choix, quoi.
Après, il mange que des insectes, hein, ça fait pas grossir.
Non, mais voilà, en voyant déjà tous les lions, Simba petit, grand, Timon, Pumba, on voit clairement qu'ils ont pris direct le parti de garder le côté réaliste de tout ça et de déshumaniser, on va dire, en quelques mots. Ce qu'il y avait dans la version de 94, quoi.
Ouais, et de les décartooniser aussi, quelque part. Parce que ça faisait le dynamisme aussi du Roi Lion.
Alors, bonne ou mauvaise idée.
Qui va à 10 000 à l'heure, quoi.
Je sais pas, moi je trouve qu'esthétiquement c'est pas une si bonne idée que ça, parce que je trouve au niveau de l'identification ça marche pas tellement. Après peut-être que le film va me donner tard, hein. Mais et puis je trouve que ça a l'air d'être un film calculé entre deux chaises, quoi. On veut faire de l'hyper-réalisme, mais en même temps
avec des chansons.
On va mettre des chansons, ouais. et puis on va voir les bouches des animaux qui parlent, tu vois. Je trouve que c'est un choix un peu bizarre. À la limite qu'ils fassent un remake live où c'est plus des lions ou c'est des humains, pour aller à la limite. Ouais,
mais c'est vrai
pas,
ce que tu dis.
Mais pourquoi faire ça avec des lions réalistes?
C'est vrai ce que tu dis, Kevin, c'est qu'on les voit pas parler, presque pas, quoi. Ouais. Dans la BA, j'ai l'impression qu'ils sont pas à l'aise avec le fait que ça soit dialogué.
Et bah, peut-être que c'est pas fini aussi. Tu sais, ils ont pas fini. Enfin, maintenant si, mais à l'époque où la BA est sortie, peut-être que c'était pas encore au point.
Non, non. À mon avis, moi, je pense que c'est plus une technique, justement, pour cacher pas la misère, mais pour soit pour surprendre le spectateur parce que ça va être super bien. Ou soit pour se dire, pour amener le spectateur à venir directement en salle, les découvrir par lui-même, et surtout à payer son billet, hein, ouais. On va pas se mentir. Justement, le fait qu'ils aient enlevé ça, on les voit pas chanter, on les voit pas parler. Ouais, ouais. Enfin, vite fait, c'est souvent beaucoup de voix off dans la BA. Peut-être parce que justement, ça fait trop bizarre sur des persos aussi réalistes. Ça rappelle ces vieux films à l'époque, Benji la Malice et compagnie, là, L'Incroyable Voyage. Ou déjà rien que sur un chien de quartier, ça faisait chelou, quoi.
Un chien de la casse.
Ouais, ça faisait bizarre.
Non, mais c'est une BA qui joue clairement sur la nostalgie et que ça, quoi. C'est-à-dire que tous les moments iconiques, on va te les remontrer.
Après, je trouve que ça joue pas que sur ça, si tu veux. Pour moi, c'est juste une démo technique, cette BA. C'est, ouais. On vous montre les scènes phares pour vous montrer que c'est le même film qu'avant. Mais ce qui va faire venir les gens, c'est parce que, regardez, c'est en 3D, photoréaliste. Pour moi, c'est une démo technique, en fait.
Ouais, après, il n'y a rien à dire. C'est beau. C'est super beau visuellement.
Ah oui.
Et justement, parlant de beauté, les décors sont quand même ahurissants. Mais moi, j'ai une question, parce qu'on va ouvrir la page décors maintenant. Est-ce que c'est tourné en Afrique ou est-ce que c'est du tout refait en fond vert, studio?
En fait, ils ont créé les décors numériquement avant qu'il y ait les acteurs et tout. Ils ont créé tous les décors. Et en fait, les acteurs et une grande partie de l'équipe a tourné avec des casques VR, ce qui fait qu'ils étaient immergés à 360 degrés dans les décors qui avaient été créés. En fait, ils ont fait un peu comme pour un jeu, quoi. Et ensuite, les acteurs ont joué sur une boîte noire. C'est-à-dire que une boîte noire, quoi, des murs noirs, un sol noir, un plafond noir. Et là, ils ont enregistré les performances des acteurs avec des vraies caméras, mais avec apparemment une équipe technique très discrète, quoi, qui pour pas influer sur le jeu des comédiens. Mais donc c'est un mélange de performance capture et de environnement 3D, quoi. Mais à mon avis, il n'y a pas eu de
prise
plan,
de vue réel,
de plan tourné, ouais. du film, quoi. Contrairement, ouais. Au livre de la jungle où il y a eu des plans sur fond bleu et tout, quoi. Avec
c'est
des
pas comme
acteurs.
Dinosaure où c'était image de synthèse mais décor réel, quoi.
Oui.
Donc ouais, les décors qu'on retrouve. Hein, alors moi, pour lancer un peu le débat. Je suis un peu attristé dans le sens où justement la recherche de ce réalisme nous fait perdre, j'ai l'impression, de la couleur qui était omniprésente et à foison dans le film de 94 et qui était juste magnifique. Du coup, là, on se retrouve avec des corps ultra réalistes, un peu ternes pour certains, notamment la falaise, le cimetière des éléphants.
Ouais, la savane.
Parce qu'il m'a
plus
choqué, c'est la scène que tu vois dans la BA où Timon et Pumba trouvent Simba là, dans le désert, en fait, où c'est surexposé et tout. Enfin, c'est super triste, je trouve. Il n'y a pas la chaleur qu'il y avait à l'image dans le dessin animé. Et je trouve ça un peu gênant. Après, c'est peut-être parce que j'aime trop le dessin animé, je sais pas.
Oui, mais Kevin, la planète se meurt.
Il est vrai.
Ils ne font pas mentir.
Tu penses qu'il y a un message écologique?
Forcément, il va y avoir. Non, mais c'est sûr. Forcément, oui, il va y avoir un propos.
Ouais, ils sont tellement dans ce délire-là, Disney, qu'ils vont trouver le moyen de caser un petit message écologique.
Scar, il va mettre des genres de la viande dans l'emballage et tout.
Peut-être qu'ils ne vont pas au cimetière des éléphants, peut-être qu'ils vont au dépotoir, tu sais. Il y a plein de trucs plastiques et tout.
Tu es un pollueur, Scar.
Après, ouais, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un propos écologique qui est moins de couleur, mais. C'est vrai que ouais, ta question est pertinente, je sais pas ce que ça va donner, c'est un peu triste ou non. Ouais.
En fait, le risque, c'est qu'on perde tout le fun, quoi, du film. C'est-à-dire la palette de couleurs, le côté cartoon, l'humour, c'est les chansons, enfin, moi, c'est ça qui
ouais, ce côté peur. Réaliste, parce que t'avais quand même beaucoup de délire fun dans le premier, Timon qui danse la vaïnée à la fin, même dans les chansons, t'as beaucoup de mise en scène,
les animaux,
les animaux qui font des pyramides et tout. Alors ça, j'ai hâte de voir comment ils vont le faire.
Ils vont pas le faire,
ouais.
C'est marrant. C'est un documentaire BBC avec des animaux qui parlent.
Non, mais du coup, je me demande si ça va être plus dramatique, Enfin, vu que le ton va être plus réaliste, c'est ça quoi.
Bah, en tout cas, la BA a ce côté, effectivement, on entend des phrases en voix off, ça fait très dramatique. Mais à la fin, pour rassurer le spectateur, ils ont mis quand même un petit bout de fun avec une chanson. Ouais.
Avec la petite chanson, et ça me permet d'ouvrir le volet musique du film. On entend quelques musiques, la phare. Donc j'aimerais bien qu'on fasse un point là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse le plus... Franchement, parce que bon, je m'adoucis vachement pour ce podcast, parce que vous le savez autour de la table, mais il faut que je le précise aussi, je ne supporte pas les dernières adaptations live et cette recette et tout ultra commerciale. Je ne supporte pas ça, ça me donne des boutons. Mais là, pour le Roi Lion, il y a quand même quelque chose qui réunit tout le monde, c'est la musique, hein, oui. qu'on remake ou pas remake. Là, les petites notes qu'on entend, cette musique qui nous a tant marqué,
ça
tant
met
bouleversé,
les poils.
Si c'est réorchestré, si c'est refait... De bonne manière et pas qu'on a rajouté juste du Beyoncé qui vient taper la voix.
I'm a single lion.
I'm a single lion. Non,
ouais,
I'm a
single, single lion. Lion.
I'm a single lion. I'm a single. Je voudrais déjà. Donc ça annonce du gros lourd. En plus, qui c'est qui est derrière la musique là pour celui-là?
Hans Zimmer, comme dans le premier.
Hans Zimmer.
Oui, alors moi j'ai eu une petite interview de lui où il dit que il a réorchestré quand même les musiques du film. Avec, puisqu'il dit que les mentalités ont évolué, etc., un plus grand souci de l'Afrique. Alors, je ne sais pas ce que ça va vouloir dire dans le film.
Magic System.
En fait, moi, quand il dit ça, ça me rappelle la bande-annonce VHS, là, ah, oui. Où ils disent un pays mystérieux.
Un royaume
mystérieux et sauvage. L'Afrique.
C'est ce grand pays.
Ça se passe dans la capitale
de
l'Afrique.
C'est le plus grand pays du monde.
Ouais,
ce dont parle Johanna, c'est la bande-annonce qu'il y avait dans la VHS. Moi, je me rappelle dans la VHS de Aladdin que j'ai fumé. Hein. C'était la bande-annonce de ça. Et on vous la glissera en lien aussi à côté de la bande-annonce 2019. Et vous verrez, ouais. Parce que toi, t'es concerné en plus. Bon, tu viens du Vietnam.
Oui, mais nous, en Asie, ça nous a vachement choqué. Ah, cette bande-annonce.
Même combat, hein, asiatique, africain, même combat, quoi.
Ah, mais du coup, plus d'Afrique, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Plus de percussions? Est-ce qu'il va utiliser que des instruments africains? Je sais pas.
Bah, je crois pas. Parce que quand t'écoutes la musique, là, dans la BA, il n'y a pas que des instruments africains. Il y a quand même des cordes et tout. Ça reste de la musique orchestrale,
quoi. Mais
elles
sont fabriquées en Afrique.
Non, mais c'est
les cordes d'Ouganda.
Mais les gens l'ont fabriqué volontairement.
C'est des orchestres classiques. Après, j'ai juste l'impression qu'il a rajouté plus de percus, quoi.
Oui. Bah, la Black Panther.
Et
ouais.
Puis il a mis des boum parce que c'est la mode, tu vois.
Autre question, est-ce qu'ils vont toucher au morceau d'Elton John? J'imagine que oui, ça va être réorchestré aussi. De quelle manière, du coup?
Bah, ça va être, à mon avis, ça va être un duo de Donald Glover à Beyoncé, quoi.
Oui, ça clairement, je pense qu'il y a une nouvelle. Ah oui, alors apparemment, il y a des nouvelles chansons. Il y a au moins une ou deux nouvelles chansons, dont un duo entre Donald Glover, aka Childish Gambino, et Beyoncé. Qui s'appelle Spirit, je crois, si j'ai bien lu.
This is Africa.
Je peux te dire qu'ils vont en vendre des singles. Là.
C'est fait pour. Hein.
Donald Glover, aka Childish Gambino, de son nom d'artiste, qui interprète le Roi Lion, c'est ça? Enfin, le
qui
Simba.
Qui interprète Simba. Simba, ouais.
Et adulte, Beyoncé qui fait Nala.
Oui.
Ok, donc on a déjà un début de casting. Là. Qui c'est d'autre qu'on a, vous savez un peu?
Oui, donc il y a Seth Rogen qui fait Pumba.
Ah oui, ça a l'air bien d'ailleurs.
Ça fonctionne très bien, cette voix
en
sur
VO,
Pumba.
Du moins, ça se rapproche beaucoup de la voix de Pumba en VF.
James Earl Jones qui fait Mufasa. James Earl Jones, est-ce que c'est pas...
La voix de Dark Vador.
La voix de Dark Vador, exactement.
Si, ouais.
Chiwetel Ejiofor qui fait Scar. À savoir que Cumberbatch a refusé le rôle de Scar.
Il en a marre de faire des animaux.
Bah, il était pas, il était
de
pas assez noir à ce moment-là. Parce que là, tu m'as donné que des blagues depuis tout à l'heure.
Tu sais, dans le Hobbit, il ressemble pas trop à un dragon non plus. Hein, mais...
Oui, très peu.
Si, mais si tu plisses les yeux un peu.
Peut-être.
Alf Woodhard qui fait Sarabi. C'est qui Sarabi?
Sarabi, c'est la mère de Simba.
Alors, Alf Woodhard, vous l'avez vu dans Luke Cage, notamment. C'est la méchante.
Ok, d'accord. Très bonne actrice, elle.
Et je regarde s'il y a d'autres acteurs. Amy Sedaris, elle est dans Bojack.
Et Mufasa, c'est qui? T'as dit
bah, James Earl Jones.
Ah oui, bah,
mais qui reprend, qui comme Jean Reno en VF, hein, reprend le rôle de Mufasa. Ouais. Donc voilà.
Jean Reno en VF, je crois que c'est le seul qui revient.
Tout à fait.
Bah, beau casting, hein, en tout cas, du côté des States, là. Ils sont vraiment blackifiés pour le coup. Alors, ça, est-ce que c'est un pur hasard, une pure coïncidence, ou est-ce que c'est une envie de rester fidèle
à l'Afrique, à la... un mystérieux royaume
sauvage.
C'est
sauvage.
Mystérieux royaume sauvage.
Oui, bien sûr, c'est politique, mais bon, on va pas s'en plaindre, donner des premiers rôles à des acteurs noirs. C'est quand même...
Comme par hasard, sur des rôles où on les voit pas.
Ouais, c'est ce que
moi,
j'allais
dire.
Moi,
je dis ça, je dis rien.
Et on parle du cast français ou pas?
Ouais.
Ouais, ouais.
Alors, c'est Ryan Bensetti qui fait Simba.
Je vois pas du tout qui c'est.
Ah, c'est pas le comique, là?
C'est un danseur, bref. Ah non, bref. Jean Reno, Alban Ivanov fait Pumba, pour ceux qui voient qui c'est.
Oui, Alban Ivanov, le comique qui a plutôt percé ces derniers temps.
Et Jamel Debbouze fait Timon. Alors lui, il est dans tout, quoi.
Oh, le gars, il est trop fort, il se place partout.
Qui faisait déjà un lémurien dans Dinosaure, ouais. Pour ceux qui se rappellent.
Oui.
Mais Timon est une mangouste.
Et c'est, d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup de rapport en termes de famille.
Mais c'est
biologique,
la même
hein.
Famille, bah, oui, c'est des marsupiaux. Bizarre. Oh, puis merde. Hein. Très bien ce que je veux dire.
Je crois que la mangouste, c'est un mustélidé.
Ouais, bah c'est à voir. Pourquoi ils n'ont pas repris les voix françaises du 94? C'était plus possible?
Ils sont morts.
Je sais absolument pas.
Ils sont décédés, Romain. Tu ne te souviens pas? Cette catastrophe en Ouganda?
Non, mais je crois pas qu'ils soient morts, mais ils ont juste pris des gens qui sont
qui sont à la mode, quoi, oui, c'est voilà, tout. C'est ça.
Peut-être qu'ils ont demandé trop d'argent.
Mais Ryan Bensetti, il est bankable.
Oui, 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 oui.
D'ailleurs, je pousse un petit coup de gueule vite fait parce que si c'est vraiment un danseur, parce que je sais pas qui c'est, je suis désolée, peut-être qu'on dit de la merde depuis tout à l'heure.
Il doit être danseur.
Mais en
chanteur,
fait, il existe de super acteurs de doublage et des acteurs tout court. Et je comprends pas ce délire de prendre des gens qui sont pas comédiens pour faire du doublage. C'est marrant 2 secondes. Mais il y a des comédiens qui crèvent la dalle et qui sont excellents et qui aimeraient bien faire ça parce qu'ils savent faire.
Ça, c'est bien vrai.
Bah oui, mais bon, t'as marqué Ryan Bensetti qui fait la voix d'un tel. Et si tu prends un doubleur machin, t'auras marqué Xavier Bourgeois fait la voix. On saura c'est qui, Xavier Bourgois, ça n'attire pas.
Non,
c'est simplement une grosse technique marketing.
T'auras même pas marqué.
Ouais, je comprends. Mais
officiellement, il est comédien danseur. Ouais. Voilà. Il a joué dans Joséphine Ange Gardien quand même. Donc bon, il est quand même légitime.
Ben voilà.
Ah, il est vol.
Il a du level.
Quel épisode? Moi, je les ai tous vus.
Celui avec le livreur de falafel là,
qui
est partagé entre sa vie de famille et la religion.
Ah ça.
Putain, arrête, on dirait un film de Luc Besson.
Les frères d'Ardennes.
Bon, on a fait le tour, le design des personnages.
Pas trop.
On verra, si ça donne. Moyen.
Réaliste BDR.
Les décors.
Ça manque de couleurs, triste, l'écologie.
La musique,
oui.
Le casting.
Ils sont noirs, la diversité, mais on les voit pas.
Hey, mais d'ailleurs, mais ça c'est inadmissible parce qu'aux États-Unis ils ont fait l'effort de mettre que les acteurs noirs. En France, non. Hein.
Non, c'est vrai.
Et ça, moi je vais faire une petite marche, je pense, demain.
Parce qu'en France, on s'en bat les couilles.
Et est-ce que tout ça touche ce petit. Est-ce que ça vous donne envie, vous?
Non!
Bah, Kevin, vas-y, lance-toi.
C'est même pas un vrai nom, c'est un jeu. Je me dis à quoi bon en fait. Je vois juste le côté, on fait ça pour transformer un dessin animé qui était très bien en film à grand spectacle pour que toute la famille aille et que ça rapporte encore plus de thunes à Disney qui va pouvoir vendre en plus des albums avec Beyoncé, quoi. Pour moi, c'est vraiment juste une OP marketing, tu vois, c'est même pas un film qu'on me présente, j'ai l'impression. Après, peut-être que j'aurais tort.
Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Après, je suis un peu curieux quand même. Je me dis, ils ont pas pu saccager... Alors, je me disais la même chose, ils n'ont pas pu saccager Spider-Man. Heureusement, oui. Mais ils n'ont pas pu saccager le Roi Lion à ce point. Le truc qui me rassure un petit peu, c'est Jon Favreau, le réalisateur, puisque c'est lui qui a lancé le MCU avec Iron Man et tout. Et je me dis, s'ils lui ont confié un truc aussi culte, il a dû donner des idées, des garanties. Voilà. Moi, j'ai un petit espoir.
Il a déjà de l'expérience en plus dedans, parce que c'est aussi le réalisateur
du livre de la jungle.
Qui avait, explosé le box-office.
Et moi, j'ai un petit espoir qu'il change un peu l'histoire. Que ça soit pas du copier-coller et qu'on soit un peu surpris.
Ah oui. Et toi, ton avis, Johanna, envie de le voir ou pas, ce film?
Ben écoute, bizarrement, il me donne envie de revoir l'ancien parce que j'ai une histoire un peu compliquée avec le Roi Lion.
Attends, je me mets à l'aise.
Ok, vas-y, reprends des cacahuètes.
En 1994, Johanna.
Non, ben en fait, je viens donc d'une contrée lointaine où les films n'arrivaient pas dans le même timing que chez vous autres occidentaux. Oui. Donc je l'ai découvert assez tardivement, en fait, en cassette vidéo. Et c'est très bizarre ce que je vais dire, mais ça avait pas capté mon attention parce que c'était pas exotique pour moi. Et
il y a beaucoup de lions au Vietnam.
Ça, par exemple, La Belle et la Bête, c'était hyper exotique pour moi, tu vois. Et
ah là, elle était hier. T'as mis des fourchettes, t'as fait oh, qu'est-ce que c'est.
C'est ça, j'étais là. Oh, oh, plus d'Elie. Et ouais, et du coup, je pense que je l'ai pas du tout apprécié comme il se devait. Je l'ai pas revu depuis. Donc, c'est pas forcément culte pour moi, Le Roi Lion. Mais du coup, cette bande-annonce m'a donné envie de revoir d'abord l'ancien. Et ensuite de comparer avec celui-là, et qui me fait très peur, personnellement, parce que, à cause de tout ce qu'on a énoncé avant.
D'accord, ok.
Et toi, Romain, t'en attends quelque chose ?
Alors moi, bah, comme je l'ai déjà dit, hein, vous le savez déjà, j'ai un énorme problème avec cette recette-là, qui est de refaire des films live à partir de choses qui existent déjà. Mais le problème, c'est que, par exemple, à une époque où Maléfique, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, Maléfique.
Oui, c'était trop bien.
Avec Angelina Jolie. Prenez un élément de La Belle au bois dormant pour en faire une histoire, notamment autour de la méchante, hein, Maléfique.
Un spin-off. Ouais.
Et donc c'est un pur spin-off. Aujourd'hui, ils ont décidé de même plus se casser la tête, quoi. Ils font du copier-coller. Il s'est juste passé par le filtre de El Ordinator, qui est le...
Un cousin à moi.
Oui, un cousin d'El Calculator. Et on te ressort ça en disant il y a quelque chose de nouveau, on a revu les trucs et tout, ça permet aux enfants qui ont... Alors ça, c'est un argument que j'ai entendu aussi, hein, qui me fait péter un câble. Ça permet aux enfants de mieux apprécier l'animation parce qu'ils ont du mal avec les dessins animés d'antan et tout, machin, etc. Mais c'est normal, ton gosse, si tu lui colles une tablette à un an déjà sous la gueule...
Oh, pas de politique.
Bref, non, mais je m'emporte, tu vois, c'est un sujet en fait qui me fait perdre les boulons. Parce que je supporte pas ça, le fait qu'on aille gratter la nostalgie et tout. Après, voilà, je mets de l'eau dans mon vin et tout beaucoup parce que je vais pas faire le vieux con tout le podcast. Mais après cette bande-annonce, non, elle me donne envie, oui, parce que c'est Le Roi Lion, beaucoup plus de ce côté-là même. Mais elle me donne envie aussi, par curiosité, d'aller voir ce qu'ils en ont fait et pouvoir avoir un constat aussi sur ça, parce que je peux continuer à râler. Si je ne vais pas voir les films, je vais avoir du mal à avoir un vrai avis là-dessus, quoi.
Après, tu pourras te rattraper, parce que ce n'est pas le dernier qu'ils vont faire. Hein.
Mais elle me donne envie aussi, cette bande-annonce, parce qu'elle est simplement copier-coller. Les plans sont des copier-coller de ce qu'on a déjà vu. Donc forcément, ça fait encore plus appel à ta nostalgie et tout. Mais bon, quand tu réfléchis aussi avec un peu de recul, tu te dis, ça c'est une technique et je n'ai pas envie de tomber dedans. Mais bon, je tombe dedans volontairement pour pouvoir...
Vous, les auditeurs, c'est pour vous.
C'est pour vous, c'est pour la France que je le fais.
Je ne suis pas sûr, moi, de cet argument. C'est pour les enfants des nouvelles générations. Je ne suis pas sûr que cet argument soit donné par Disney. À mon avis, Disney assume tout à fait le dessin animé. Et je pense que c'est toujours aussi kiffant pour un enfant de voir ce dessin animé. Pour moi, c'est une nouvelle version. Voilà. Et pour faire une nouvelle version, ils ont changé la technique d'animation du film. J'espère que ça apportera plus qu'un aspect esthétique et qu'il y aura aussi une réactualisation de l'histoire.
Donc oui, ça va être le grand débat là, tout de suite après avoir fait la BA. Alors que Disney semblait s'embourber face à l'accueil mitigé de ses derniers films, live, je ne sais pas si vous vous souvenez de John Carter, Tomorrowland.
Oui, tout à fait.
Vers 2015, entre autres.
John Carter et Tomorrowland, c'était pas trop mal.
Oui, mais c'était des films originaux, si on peut dire ça comme ça. Ces dernières années, on a pu voir une ribambelle de classiques Disney, hein, de notre enfance, et même celle de nos parents, parce que c'est des films très anciens, passés par la case remake, CGI et acteurs en chair et en os. Mais moi, j'aimerais avoir votre avis sur la question là autour de la table. Est-ce que ce procédé est pour vous un tournant technique original ajoutant encore plus à ce qu'est la magie Disney, ou bien est-ce ni plus ni moins dans ce Hollywood actuel encore une énième recette mercantile flémarde qui utilise notre nostalgie pour qu'on mette la main au porte-monnaie?
Je pense que malgré tout, Disney, ils doivent avoir un peu peur d'être has-been. Je sais pas comment expliquer. C'est comme, tu sais, quand il y avait le passage du muet au cinéma parlant. Je pense qu'ils ont un peu cette angoisse-là et qu'ils se lancent un peu là-dedans pour se dire, quoi qu'il arrive, on va toujours être dans le game, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est vraiment cette peur de ça qui les fait aller dans ce sens.
Mais il y a d'autres manières d'être dans le game.
Bien sûr, ouais.
Par l'originalité, par exemple, Kevin.
Non, mais je suis pas un spécialiste de la question, mais je crois qu'ils ont été assez traumatisés par les fours qu'ont fait John Carter, comme tu disais, Tomorrowland, ou même
Un raccourci dans le temps.
Lone Ranger,
ouais. Tu vois, Lone Ranger, oui.
Qui ont été des gros fours. Et je crois que maintenant ils veulent plus prendre de risques, en fait. C'est que maintenant ils se disent, voilà, on a Marvel qui cartonne, on a racheté Star Wars parce qu'on sait que ça va cartonner, même si on fait des films de qualité médiocre.
Discutable.
C'est un autre notre débat. On fera la BA de l'épisode 9. non, je pense qu'ils ont juste peur de ça et que du coup ils tablent que sur des grands classiques parce qu'ils savent que de toute façon les gens vont aller le voir.
Oui, mais alors pourquoi ils les ressortent pas, par exemple en 4K? tu vois, où ils font quand même le travail
pour que, ça fait, pour que ça ait l'air neuf.
Ça avait été fait, ça a été fait pour Le Roi Lion, notamment pour La Petite Sirène aussi, il me semble, ouais. Pour ses 10 ans, ou ses 10 ans, je crois que c'était en 99, si je ne me trompe pas. Ils l'ont fait à un moment, ils faisaient des ressorties de films sans, en les remasterisant, en les améliorant et tout, en rendant l'image plus belle, mais pas en passant carrément par la case, on refait exactement la même chose avec du CGI.
C'est pour que ça a l'air neuf, je pense, c'est juste on te resserre la même recette, mais ça a l'air nouveau, donc les gens y vont.
Et c'est eux aussi, Blanche-Neige et le Chasseur et tout là,
c'est
pas Disney ouais. Ça.
Mais Blanche-Neige va être fait aussi.
Ah,
c'est prévu, oui, parce que Kevin, toi tu as un peu regardé ce qu'ils
nous annoncent. J'ai regardé après. Qu'est-ce qui se fera vraiment, qu'est-ce qui ne se fera pas, je ne sais pas encore, parce qu'il y a encore des titres qui sont que des projets. Mais oui, donc La Belle et le Clochard, Merlin l'Enchanteur.
Il y a Mulan aussi qu'on a vu passer.
Mulan,
La BA est sortie, La Petite Sirène, on en a beaucoup parlé là, pour le choix de l'actrice qui a fait débat. Là.
Juste petite parenthèse, avis à tous ceux qui font des débats autour de ça. Je tenais juste à vous dire qu'elle soit blanche, noire, jaune, rose saumon, on s'en bat les couilles, ce sera de la merde de toute manière. Alors,
et
arrêtez,
surtout,
voilà.
Les gars, on parle d'un personnage de fiction, quoi, le débat de merde. Quoi. Ouais. Alors pour le coup, ce sera peut-être intéressant, un remake de La Petite Sirène.
Je sais pas.
D'un point de vue plus féministe.
Ouais, après, je suis pas un grand spécialiste Disney, mais il me semble aussi qu'ils font des films qu'ils n'avaient jamais adaptés avant, genre Casse-Noisette. Si je dis pas de conneries, c'est sorti là
en hiver dernier.
En live action, ouais. Donc je pense que ça, ils veulent rentrer dans une collection de films.
C'est si récent que ça, Casse-Noisette. J'ai l'impression que c'était plus vieux.
Ouais. Je crois que c'est 2018. Et je pense qu'ils veulent repartir dans une collection de classiques, mais que ce soit des classiques Disney ou pas, parce que Casse-Noisette, c'est un conte pareil.
C'est un
ballet, ouais. Un ballet.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, bientôt Le Médecin Malgré Lui par Disney.
Toute la bibliographie de Molière vue par Walt Disney.
Mais en live action.
Après, ce choix de prendre des acteurs à chaque fois réels, ça, c'est une vraie interrogation. C'est presque philosophique, quoi. C'est-à-dire, pourquoi ils ne veulent plus faire d'animation traditionnelle? Qu'est-ce qui n'est plus actuel là-dedans pour
parce
eux?
Parce que enfin... Pixar nique le game.
Oui, ouais, en 3D, mais ils pourraient faire des dessins animés.
Pixar leur appartient.
Oui, certes, mais quand même.
Surtout que j'ai l'impression que t'as quand même un public pour l'animation 2D, quoi.
Bah oui.
Regarde les Ghibli, les gens continuent à aller les voir.
Bon, l'animation japonaise.
C'est du japonais,
ouais.
Donc c'est pas la même vision, mais ça marche quand même. Donc je sais pas.
Non, ben voilà, moi c'est aussi pour revenir sur ce phénomène. C'est pour moi simplement une énorme recette commerciale. Ils ont trouvé le filon qui marche, qui est flemmard. Hein. Je pense que c'est vraiment le mot, c'est flemmard. Pourquoi s'emmerder à aller réécrire des trucs, parce qu'ils doivent en avoir des milliers, hein, des scénarios chez Disney, sur des bureaux. Ils doivent avoir des pièces réservées juste à ça, de nouveaux scénarios. C'est juste, allons directement vers une chose sûre qui marchera. Faisons ça parce que bring, 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 money, 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 jackpot.
Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense pas que ça soit flemmard. Je pense que c'est lâche. En fait.
Ouais, parce que flemmard non, parce que les moyens techniques ils sont énormes, quoi. C'est un boulot de ouf de faire ça.
Oui, mais c'est du maîtriser ça par Disney. Je veux dire, c'est pour eux, c'est la
simplicité. Ah non, là, Le Roi Lion, c'est clairement une technique nouvelle. Enfin, ça a jamais été fait, quoi. Donc pourquoi prendre autant de mais c'est une vraie question. J'ai pas la réponse. Pourquoi prendre autant de risques techniques sur une histoire que tout le monde connaît déjà et en même temps, apparemment, ça marche puisque les premières séances ont l'air d'être archi complètes et tout.
Les critiques elles sont dithyrambiques. Hein,
parce que on en arrive justement à l'aspect nostalgie de la chose. Et je ne l'accuse pas que Disney là-dedans, c'est un gros mouvement ces derniers temps, ça doit faire 10 ans que ça dure, où on s'appuie directement sur la nostalgie des gens en rééditant des choses, et pas seulement au cinéma. Ça se voit aussi dans les bagnoles, dans le design des meubles, dans la musique, le gaming.
Hashtag hipster.
C'est-à-dire qu'on est arrivé un peu à une époque, et moi c'est un peu ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que on n'arrive plus à avoir un courant de pensée à nous, de notre propre actualité, de notre propre contexte. On se laisse baigner dans nos souvenirs d'antan et on puise là-dedans pour créer, entre guillemets, créer. Mais c'est pas de la création.
Oui,
vraiment,
ça pose la question d'innovation au cinéma. De tout temps, ça a toujours été une question à se poser. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un âge d'or des années 90, alors qu'on est bientôt en 2020, quoi.
Mais parce qu'on est peut-être, on vit peut-être aussi à une époque où on a du mal à avoir du recul sur notre actualité proche. Parce qu'on commente tout de suite super vite et on n'a pas de recul. Et j'ai l'impression qu'il faut vachement de temps pour digérer et ensuite pour en parler.
Mmh. Et puis il doit y avoir aussi un aspect, une sorte de désillusion, je pense, des gens qui sont rentrés récemment ou qui sont depuis quelque temps là dans la vie adulte et qui ont besoin de se rappeler de leurs rêves d'enfant pour pouvoir y échapper et qui n'ont pas le temps ni l'envie de s'ouvrir à d'autres choses alors qu'ils sont pris par leur travail ou par leur vie tout simplement quoi.
Oui, et puis peut-être aussi tout ça, les méfaits de la socialisation par l'internet et tout ça en masse. Ça peut être aussi, on peut prendre aussi ça, je pense, pour une dérive de ce genre de choses, comme tu disais, Johanna, où on manque de recul sur qui on est. On n'a pas le temps de créer des courants et des modes parce que tout le monde est déjà en train de faire des challenges où on doit ouvrir une bouteille avec, avec le pied et des trucs comme ça.
C'est peut-être ça, notre époque.
Se renverser un seau d'eau sur la tête.
Ouais. Bon, on fait des blagues, hein, parce que c'était sérieux, quand même.
Ouais, là, on est sérieux.
Ouais, oulala. Tu la connais, celle de la pute et le curé.
Ouais, ouais. Ça fait des comment?
Ah bah, ils s'enculent. Voilà, on a rétabli le niveau. Justement, on a rétabli le niveau pour arriver à la rubrique du titre, car à Fetabea, nous nous amusons à redonner des titres qui vont aller sur nos belles affiches, hein, qui sont designées par Bruno, qui n'est pas là aujourd'hui, mais à qui on pense.
On pense à toi, Bruno.
Et si vous deviez redonner un titre après tout ce qui s'est dit, après l'analyse de la BA, au Roi Lion version 2019, quel titre lui donneriez-vous?
Moi j'en ai un, c'est comme c'est photoréaliste, ce serait le Réal Lion.
Le Réal Lion.
Ouais.
J'ai envie de rire mais ça bloque. Ok, on garde ça sous le coude.
Moi j'en ai un mais il sonne pas bien.
Vas-y.
C'est Sim Ilerba.
Oh merde.
Oh, putain. J'ai pas compris.
Il y a Sim.
Simba et Sim Ilerba.
Genre enfin, entre parenthèses, c'est Iler.
C'est pareil.
Bah.
Ah ouais.
Mais ça sonne pas bien, t'as
ah
vu.
Mais là c'est parti.
Oh, mais il faut qu'on trouve un truc autour de ça. L'idée elle est pas
ouais,
mal.
Ouais, tu vois, c'est tout pareil.
Bah après, écoute, moi j'en ai un justement par rapport à ça, ouais. Et à ce côté ultra photoréaliste et tout. Alors j'ai le titre anglais et j'ai le titre français.
Oh.
Vous voulez que je vous donne le titre anglais d'abord.
Ok.
Le titre anglais c'est National Geographic The Movie.
Du coup en français avec c'est Géographie Nationale de Films.
Non. Et en français en fait c'est juste parce que je prends beaucoup le métro et je vois beaucoup d'affiches,
ouais.
Et notamment une qui m'a inspiré le titre du film qui va suivre. Ça s'appelle Zoo Park de Beauval, le film.
Oh merde.
Voilà.
Moi j'ai Saga Africa aussi.
Moi j'ai l'Afrique la capitale.
La capitale. Moi, en catchphrase, je voulais mettre un truc du style genre un remake plus vrai que nature.
Ah, ça c'est bien.
Ça c'est bien.
Ça m'a plu.
Ça c'est bien.
Ça c'est du piment d'Espelette.
Bon, ok, on a la catchphrase. Faut un titre maintenant.
Bon, tu choisiras.
On le choisit maintenant. 2 hours
later. Félin Béa.
Le roi million.
Oh, le roi million.
Le roi million.
Le roi million.
Ça c'est beau.
C'est exceptionnel.
Mais c'est bien beaucoup. Ça, ouais. Parce que ça va rapporter beaucoup de millions, ça.
Exactement. Ouais, ouais, ouais.
En plus, ça fait comme si t'as un moitié lion aussi. Et c'est assez
le
drôle. C'est un jeu de mots.
C'est du génie, c'est
le
évident.
Le roi, bah bravo.
Ouais,
bah,
million.
Bah, voilà,
c'est
évident.
Nous applaudissons.
Regarde, tu m'as mis les poils.
Et je viens de faire un dab. Vous le voyez pas, mais.
Très beau dab. Très, très beau dab.
Et ben bravo. Bah voilà, on a notre titre.
Bah voilà.
Le roi million, tout un simplement. Remake plus vrai que nature.
Et voilà. Et ça, c'est. J'en ai rien à dire.
C'est du piment d'Espelette.
Sponsorisé par National Geographic. Et là, super.
Voilà.
Donc, le roi lion, version 2019, faut préciser, parce que sinon, on a l'impression qu'on est une émission rétro. À part si on nous écoute en 2070, oui,
c'est
on est une émission
rétro.
Oui, oui. Donc, le roi lion 2019, qu'on ira voir hier.
C'est pour hier.
Ça, c'est pour le retard. Désolé pour le retard, les amis. Qu'on ira voir. Très très vite,
oui.
Avec petit enjaillement quand même, mine de rien, ça reste le Roi Lion.
Curiosité.
Ça va bouger curiosité. Des épaules, ouais, ça va faire plaisir
curiosité.
Aux oreilles.
Voilà.
Ouais, ouais. Ça va faire, je pense que ça va. J'ai hâte d'entendre la musique, hein, j'ai hâte de bouffer ça avec un bon gros son Dolby Surround.
Ouais, moi,
j'ai
ramené curieuse. Des savanes.
Et de revenir
ah,
avec.
Oui.
Ah, tu vois, on va manger des savanes.
On va manger des savanes en regardant le Roi Lion pour le côté un petit peu méta.
Ah, pour le match retour, on mangera des savanes. Cool. Bah, le match retour, donc, du coup, qui sera dans l'épisode 13, si vous voulez entendre nos avis
oui.
Sur le Roi Lion version 2019. Et en parlant de match retour, est-ce qu'on serait pas là tout de suite celui de Anna?
Pardon.
DJ, keep that shit.
Ça te fait mal quand on te tire dessus?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération?
Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul!
Match retour d'Anna de Luc Besson, sorti dans les salles dernièrement, et que nous sommes allés voir.
Enfin, deux d'entre nous. Les autres n'ont pas eu le courage.
Mais non, on était pris malheureusement.
Eh ouais, ouais. Trop d'activité cette année.
Vous étiez pris par les bons films.
C'est pas qu'on n'avait pas envie, hein.
Ouais,
vraiment, bon, j'ai essayé jusqu'à la dernière minute, la salle était pleine.
À chaque fois, c'était plein. Oh là là.
Donc, pour rappeler l'histoire qu'on s'était imaginée dans l'épisode numéro
11, c'est globalement la même histoire que le vrai film.
C'était une top modèle qui est recrutée pour être espionne et qui change de coiffure et de tenue à chaque scène.
Car elle est chauve et que ça, ouais, ça la contraint. Voilà. Le fait de ne plus avoir de cheveux lui a fait complètement vriller et du coup elle a décidé de se lancer dans l'espionnage car c'est son dada. Mais pris dans un triangle amoureux,
exact.
Elle devra faire la différence entre la passion et l'amour des balles.
Et c'est ça.
Voilà. Donc tout ça vu par le prisme si délicat de Luc Besson qui a si bien compris les femmes à travers ses films. Mais qu'en est-il de la vraie réalité Kevin, tiens...
De toute façon, je vois pas à qui tu peux demander.
Oui.
Je peux te le résumer toi. Mais...
Bah oui, parce qu'on rappelle que Johanna et Clément l'ont pas vu.
Exactement.
C'est
Anna, c'est exactement le même synopsis que celui qu'on s'était fait, mais pas dans le même ordre. C'est donc l'histoire d'une meuf droguée en Russie qui se fait recruter par le KGB pour devenir mannequin espion. Et qui, en étant mannequin espion pour le KGB, se fait aussi recruter par la CIA pour être mannequin espion anti-KGB par la CIA. Et en fait, tout ce qu'elle veut, c'était une femme libérée, donc elle veut niquer la CIA et le KGB. Et après, ça finit dans le parc Monceau. Voilà.
Waouh, wow, c'est très bien résumé tout
être
ça.
Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile.
Non, c'est pas si facile, c'est pas si facile. Et la DGSE, rien du tout.
Et non, bah d'ailleurs, il faudrait qu'on en parle parce qu'à un moment, il y a quand même des SWAT américains qui débarquent dans le parc Monceau. Les flics français sont pas là.
Et tu sais, ils se mêlent de tout, hein, les Américains.
Ah, ce film,
ça fait sens, je trouve.
Ce film va trop loin. Bon, bah,
vas-y,
en parler,
hein. Vas-y, balance ton avis direct.
Ah, mais c'est un nanar, quoi. C'est un nanar, c'est un gros nanar. Mais après, voilà, chers auditeurs, rassurez-vous, ce n'est pas non plus désagréable à regarder, dans le sens où ça reste quand même divertissant si vous avez des attentes pas trop élevées.
Si vous êtes un con.
Non, pas du tout.
Non,
je vous permettrai
pas nos auditeurs.
Non, si vous n'avez pas des attentes trop élevées et que vous voulez juste voir un film où ça tabasse et tout. Mais bon, voilà, en termes de fabrication, c'est quand même pas terrible. Je trouve qu'il y a des gros problèmes de montage dans le film. Enfin, je trouve ça aberrant quand même. Le montage son, notamment, moi j'ai halluciné. Il y a des fondus qui sont de manière totalement pas naturelle. Enfin, je me dis, t'as Luc Besson, t'as de la thune quand même. Enfin, plus maintenant, tu me diras. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et puis les scènes d'action, elles sont pas au niveau, quoi. Il essaie de faire des trucs qui sont soi-disant impressionnants. Il essaie de nous faire un pseudo John Wick. Un moment dans un restaurant, mais non, mais ça marche pas. Tu peux pas, enfin,
ridicule.
Il y a John Wick qui passe juste avant, tu vois, ou qui a ses défauts aussi. On en avait parlé dans un épisode qui est l'épisode 4. N'hésitez pas, c'est pas du tout géré. Et puis, alors, le scénario, là, on arrive à un truc où en fait, c'est quand même une histoire qui globalement une histoire teubée, hein. C'est très très con, mais il essaie de te complexifier ça en te mettant des flashbacks et des flash forwards toutes les 5 secondes pour histoire de te dire, mais t'as vu, moi je sais trop bien écrire des scénarios, je vais te faire des twists, c'est trop bien. Mais en fait, ça me bat les couilles, c'est débile, tu vois. Puis moi je trouve que ça joue pas très bien, même les acteurs qui sont bons, normalement, genre Cillian Murphy, on s'en bat les couilles d'être là aussi, enfin ça se voit quoi. L'autre qui faisait Dracula, j'ai oublié son nom, là, Luke Evans. Bon, lui, il s'en fout aussi, carrément. Anna, l'actrice, j'ai oublié son nom aussi, j'ai oublié les noms de tout le
monde.
Sacha Luce. Je la trouve pas très bonne actrice, moi, personnellement.
Elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal.
Après, il l'a pris clairement pour sa plastique, et un peu comme, sauf Hélène Mirren, toutes les actrices de ce film-là, qui sont là juste pour montrer leur cul, quoi. C'est Luc Besson. Je vais un peu résumer mon avis.
Et est-ce que ça pète plus haut que son cul? Parce qu'on... C'était la question.
Je pense, ouais. Enfin, je sais pas. Je crois qu'il est persuadé à faire un vrai bon film d'action qui reste quand même un copier-coller de Nikita et de Red Sparrow, le film avec Jennifer Lawrence qui est sorti l'an dernier.
Alors lui, il dit Anna, c'est Nikita qui rencontre Léon. C'est Luc Besson.
Ouais, j'ai pas vu Jean Reno.
Et j'ai une question, c'est qui Hélène Mirren dans le film?
C'est une meuf du KGB.
D'accord, celle qui la recrute.
Elle la recrute pas, mais en gros, c'est elle qui en fait une femme forte. Enfin, ouais, voilà.
D'accord. Et toi, Romain,
toi,
qu'est-ce
c'est quoi
que
ton avis,
Romain?
Ben alors moi, je vais totalement contrebalancer parce que j'ai trouvé le film super, subversif, très très bien écrit. Les acteurs sont pour moi... au-dessus du lot. Hein.
J'y crois pas. Là, vous, pendant qu'il part, son visage se fendille en deux. Il y a une espèce de truc qui part comme ça.
J'ai rarement vécu une expérience de cinéma aussi troublante hein, depuis Tree of Life. Hein. Là, à côté, Malik, pour moi, c'est du pipi.
Oui, c'est, oui. C'est un petit joueur.
Mais non, il va falloir que je vous dise la vérité.
Tu n'as pas vu le film.
J'ai pas vu le film.
J'en étais sûr, putain.
Et bah, vous n'aurez que mon avis.
Je n'ai absolument pas vu
on
le film.
On est quatre autour de la table. Chers auditeurs, visualisez cette scène.
Je suis un gros bâtard, désolé, je t'ai laissé partir au charbon tout seul, frère.
Non, t'inquiète. Mais tu vois, mec, fallait bien que quelqu'un en parle.
Tu t'es battu pour la France, Kevin.
Personne ne peut me contredire.
Et c'est beau voilà. Parce que ça crée une dictature.
Si. Moi, je connais quelqu'un qui peut te contredire.
Qui ?
Bah, mon cousin Jean-Michel, qui m'a appelé directement après la séance. Lui, il était à 9h du matin. Il était à Perpignan, au ciné Les Lucioles.
À côté de la boulangerie, c'est ça ?
Oui, à côté de la boulangerie de Babette.
D'accord. Okay,
il était là à 9h du matin, alors que la première séance était à 14h30. Il a dit, je suis là pour faire la queue.
Il était seul tout le
temps. Non, il était avec Nikita, Léon et le cinquième élément.
Ah oui, c'est vrai.
Bien sûr.
Oui, c'est trois enfants.
C'est trois enfants qu'il a nommé par rapport au film, car c'est un grand fan. Si vous voulez, on peut l'appeler.
On peut l'appeler.
Je vais pas être
d'accord. Ça va contrebalancer parce que moi, j'avoue que j'ai fait le bâtard. Je suis pas allé voir le film parce que je vais pas voir ça, c'est tout.
En plus, tu commentais, oui, cette chaîne, elle est ridicule.
Quel bâtard!
Très bon monteur, très bon acteur, ne me faites jamais. Mais c'est peut-être pour ça que ça explique aussi mon célibat, hein, ce genre de conneries.
Ah oui, mais n'oubliez pas, oui, on rappelle que le numéro de Romain sera en description. Appelez-le, il est à la dèche.
Ça commence par 06.
Il sera aussi en audio description.
Pas besoin d'amener vos préservatifs, il a un tiroir plein.
Bon, allez, on appelle Jean-Michel qui va tout de suite nous donner son avis sur Anna de Luc Besson.
Ou allô ?
Allô, Jean-Mi ?
Oh putain, Romain, comment tu vas ?
Ah bah ça va, justement, on parlait de toi parce qu'on est en train de faire le match retour d'Anna là.
Oh putain, j'ai adoré le film. Oh, trop bien le film, je te jure, incroyable. La meuf, elle est tout le temps porte-jartelle, j'adore.
Oui, bah justement, on appelle pour que tu fasses un peu un débat avec Kevin parce que Kevin, lui, il a vraiment détesté le film. Donc j'aimerais bien que vous rencontriez Kevin, Jean-Michel, Kevin, si vous pouvez un peu débattre.
Salut Jean-Michel.
Bonjour Kevin, bonjour.
Pourquoi t'as aimé le film, Jean-Michel ?
Bah écoute, moi, je suis plutôt fan de Luc Besson depuis le début. Puis là, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais bien dans le cinéma de Luc Besson, c'est-à-dire les pistolets, les espions, les meufs, voilà quoi, c'était vachement bien, les enfants ils ont rigolé, à un moment ils vont baiser dans le placard là, comme des sauvages, et là les enfants ils ont kiffé, hein, parce que, ah bah tu vois, à l'école ils font vite fait, les cours d'éducation sexuelle, mais ils te montrent pas tout ça, mais c'est important de montrer ces choses-là, et puis ben le scénario est quand même incroyable, moi j'étais dans les twists, franchement, c'est mieux que la fin de Sixième Sens, je la trouve de ouf. À la fin, le fait qu'elle n'a pas de cheveux, mais moi je suis tombé de mon siège et pourtant j'étais dans un cinéma 4DX. Je peux te dire que j'étais bien assis.
Oh là, je vois Kevin qui fronce les sourcils.
Il n'a pas l'air d'accord.
Hein. Bah ouais, mais j'ai l'impression que Jean-Michel il a aimé pour toutes les raisons qui font que j'ai pas aimé quoi. Enfin, après, je sais pas quels sont les goûts de Jean-Michel en termes de cinéma en général, mais je pense que c'est pas très élevé, tu vois.
Oh putain, oh, comment tu me parles toi ? Et c'est pas pour qui là, le fada là ? Je vais lui péter la gueule. Oh,
oh, calmez-vous les gars. Calmez-vous.
Putain, il est un peu énervé ton cousin. Bah moi je donne juste mon avis. Bah
tu sais, Luc Besson.
Non, mais, donc, j'ai un peu la voix qui tremble.
Non, mais
et
oui,
tout,
mais il est impressionnant. Mais Luc Besson, c'est son Spielberg. Jean-Michel, calme-toi. Kevin, il t'a rien fait. Tu le connais pas.
Excuse-moi, c'est parce que Jean-Michel. Enfin, Jean-Michel, c'est moi. C'est parce que Luc Besson, ben, je l'aime beaucoup. J'ai fait la séance des dédicaces qu'il est venu faire au Cap d'Agde il y a quelques années. Quand même signé mon album de la soundtrack du cinquième élément que j'ai offert à mon fils, justement, le cinquième élément.
ça part complètement en couille.
On va passer à la note BDR. Jean-Michel, merci Jean-Michel, mais tu sais que quand on te lance, toi, on a du mal à t'arrêter. Hein.
Ouais, je suis désolé, c'est parce que, ouais, tu sais, c'est maman, Gisèle, elle travaille beaucoup, je suis tout seul à la maison, donc j'ai besoin d'un peu de discuter, n'hésite pas à m'appeler d'ailleurs à tout moment. Hein.
Bon, excuse-toi quand même auprès de Kevin, tu l'as un peu...
Kevin, je suis désolé, je te paierai un petit rosé quand tu viendras à Perpignan.
Bah merci, mais c'est pas grave Jean-Michel, je te pardonne.
Est-ce que tu sais ce que c'est le BDR, Jean-Michel ?
Le BDR, non, je sais pas ce que c'est.
Le BDR, c'est le bout du rouleau. C'est une échelle que notre échelle à nous pour déterminer si un film nous a mis au bout du rouleau ou pas.
Ah d'accord.
Donc voilà. Et toi, tu te situerais où sur cette échelle-là?
Eh bien, écoute, moi pas de bout du rouleau, hein, mais j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais retourner le voir dès demain, parce que j'ai pas le temps avant. Et voilà, non, j'adore. 20 sur 20, 3 étoiles sur Télé Loisirs, tout quoi.
Ok. Ok, bon bah ok, super. Bah merci Jean-Michel.
Bah, merci Jean-Michel.
Vous,
salut Jean-Michel.
Salut, à bientôt. Hein.
Salut Jean-Michel, embrasse la famille. Voilà, petite virée à Perpignan, on entendait les cigales un peu derrière, hein, ça fait plaisir.
Ouais, c'est vrai que c'est du... Bon, il est un peu agressif, mais ça fait...
Un peu agressif.
Ouais, mais il est passionné, il s'emporte.
Bon, je vous demande pas, Johanna, Clément, votre bout du rouleau, hein, parce que...
Après, sans présumer de la qualité du film, apparemment, ça a récolté 11 millions de dollars au box-office, il en a coûté 30, donc ça, c'est ouais, un échec.
Oui,
un échec,
mais apparemment, ça fonctionne pas sur, du tout aux États-Unis.
On est sur du 2,1 sur 5, hein, sur presse, les notes téléspectateurs
allociné. C'est à 3 et quelques, je crois, non? Ouais, ça a baissé depuis, mais j'ai vu que
presse.
La presse était 2,1 et que les spectateurs c'était 3 quelque chose.
Ouais, mais parce que, ouais, ok, d'accord.
Parce que Jean-Mi a voté 100 fois.
Ouais, parce que c'est lui. Au moins. C'est lui qui fait tous les commentaires.
Et toi, ta note à toi, Kevin?
Moi, ma note c'est PFFFF. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un. Écoutez, on s'en fout quoi.
C'est resté jusqu'au bout quand même, putain.
Ouais, non, mais moi j'aime bien rester. J'aime pas partir hein, parce que si j'ai un commentaire négatif à faire, j'aime bien quand même avoir tout vu. Que ça, je peux vraiment en parler, tu vois.
Ça, imagine, tout à fait d'accord.
Imagine, il y a un truc de fou qui se passe à la fin, tu sais pas quoi. Et genre, à la fin, ça, tu te rends compte que c'est un film bien, bah là non.
Oui, mais est-ce qu'une scène de fin de film peut rattraper un mauvais film entier?
Bah écoute, si c'est une scène genre fondamentale qui te fait repenser tout le truc, tu dis ah ouais, c'était malin, oui, mais c'est pas le cas. Mmh.
Donc, Anna de Luc Besson qui a pas du tout enjaillé Kevin, qui a beaucoup enjaillé Jean-Michel, hein, mon cousin de Perpignan. Éloigné, hein, pour préciser.
Éloigné parce qu'il est à Perpignan, mais sinon c'est ton cousin Germain.
Ce qui est drôle, c'est que t'as un cousin à Perpignan alors que t'es asiatique, c'est marrant.
Ouais, c'est marrant,
bah,
ça.
Bah, c'est ça la vie, Johanna. Elle est faite
c'est ça la mondialisation.
La mondialisation.
Bah, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui se rencontrent et puis qui font des enfants. Et
puis Yann.
Et Yann.
Anna.
Voilà. Anna. Bon. Bon, on va se dire au revoir, je crois, sur ces belles paroles.
Au revoir.
Et la semaine prochaine, on fait quoi?
Ben, on n'y est pas encore.
Attends.
C'est vrai.
Allez.
On n'est pas bien?
Si.
Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Voilà, donc c'était le match retour d'Anna de Luc Besson et la BA de la semaine du Roi Lion de version 2019.
C'était un match tout seul là.
Qui aura également son match retour dans l'épisode 13. Épisode 13 qui n'arrivera pas la semaine prochaine car on va s'offrir un peu de bon temps. On va s'éloigner un peu du micro pour aller profiter de la piscine, des balles, des guinguettes, des rosées piscines, mais également des petites parties de pétanque au soleil alors que les cigales font là-haut dans la garrigue. On va essayer d'aller manger du figatelli et cueillir des cailloux.
Voilà. On était réussi en somme.
Parce qu'on a beaucoup de choses à faire aussi, parce que le podcast c'est une passion et il y en a aussi d'autres. Ouais. Comme Nikkei par exemple.
L'horticulture.
Je répète encore une fois pour nos auditeurs, le numéro de Romain sera vraiment
06.
Inséré en bas de la description, même s'il coupera ses instants. Je m'en fous, c'est moi le community manager.
Moi je ne coupe rien, hein. Je suis un homme ouvert, je suis prêt à recevoir beaucoup d'amour, je suis prêt à en donner aussi extrêmement beaucoup. Mon numéro de téléphone, si vous le voulez, je vous le donne en live. C'est le 06 34 25. Alors, il y a eu des parasites, je crois. Bon, bref, profitez de cet été car nous y arrivons à son milieu. Nous serons au Midsummer.
Oh
oui.
Est-ce qu'on irait pas se faire?
Est-ce qui me permet de vous teaser là où on ira faire un tour pour l'épisode numéro 13? Le Midsummer.
En plus, c'est un film américain.
Ah, c'est l'horreur en plein jour.
Ah, Midsommar, qu'on va recoller après Chucky au cinéma d'horreur. On y reviendra avec grand plaisir. Un cinéma d'horreur, mais là qui correspond plus à cinéma d'auteur aussi, j'ai l'impression.
Ouais. C'est plus de l'horreur psychologique que du Chucky, quoi.
On rappelle également que si vous voulez suivre toute notre actualité autour de la BA, du monde du cinéma et des épisodes à venir et déjà passés, Il y a le site fetabea.fr pour retrouver les épisodes. Il y a la page Facebook Fetabea. Hein. Vous tapez Fetabea dans Facebook, vous nous trouvez. On est aussi sur Twitter hein, pour avoir nos avis au jour le jour et aussi nos avis sur les sorties de salles quand on sort des films à chaud. Voilà, faites un peu le tour. On est sur Spotify, on est sur Deezer, on est sur Apple. On est sur Ocha, Podcast Addict. Vous pouvez nous envoyer une lettre recommandée aussi afin qu'on vous renvoie une clé USB sur laquelle il y aura tous les épisodes que vous nous renvoyez ensuite parce qu'on n'a qu'une clé USB pour tout le monde.
Oui, d'ailleurs, voilà. Faut que tu me la rendes, il faut que je récupère mes portes.
Ah, mais j'ai fait de la place, frère.
Ah merde, t'as enlevé ?
J'ai fait de la place.
Putain. Ah bah, il a formaté.
Celui avec la naine, t'as enlevé ?
Ouais, surtout celui-là.
T'es mis une matrique.
Oh !
Sur cette blague, ma foi.
De qualité.
Pas terrible. Hein. Qualité. Pas terrible, mais fort drôle. Mais
de qualité quand même.
Allez, on se dit au revoir. Il faut qu'on coupe.
On a un avion, on part en vacances. Hein.
Ouais, on part en vacances. Ibiza, nous voilà, Copacabana. Au revoir à tous.
Salut.
Bon, salut la team.
Salut Romain.
Au revoir.
Shoshana!